Notre bœuf de grâce de Saint-Jérôme au 44 rue Valmont où était situé l'ancien Five Guys à côté du Bulk Barn. En famille ou avec des amis, c'est le lieu parfait pour passer du bon temps. Oublie pas nos brunchs le samedi et le dimanche à partir de 10h. La meilleure place en ville. La place, en tout cas, du barbu de ville. Vous êtes là. Et bienvenue dans cette Josette numéro 53. On est lundi, fête du travail pour la plupart des gens. Prendre une petite gorgée de café si tu me le permets. Et première chose en partant, peut-être que pour toi c'est pas important là, mais pour moi c'est très important. Il y a une nouvelle reine du foyer dans mon appartement, puis c'est ma nouvelle mijoteuse. Attention, Ricardo. OK, là? Non. On y est pas, là. Le barbu, là, il est rendu sérieux. Hey, en passant, si t'entends à la droite, dans les micros, si t'entends une roulette roulée, hey, ça, c'est bon, ça. C'est le hamster de ma fille, Biscuit. Imagine-toi donc que lui, il roule la nuit, lui. Ouais. Lui, il fait son jogging la nuit, mais... Moi, je suis un vieux singe, hein? Fait que la nuit passée, j'ai enlevé son esti de roulette. Je suis tanné de l'entendre rouler dans la nuit. Puis là, si tu l'entends, il roule, le maudit, là. Mais c'est correct, on est le jour, là. J'ai enlevé sa roulette la nuit. Fait que la nuit, il n'y a plus de roulette. Cette nuit-là, il était faire des dodo. Puis son cycle a changé. Là, il roule à la journée longue. Il arrive le soir, il est brûlé. C'est qu'il fout, hein? Donc, c'est ça, j'ai une nouvelle mijoteuse Ricardo que j'ai achetée en spécial chez Renaud Bré au Carrefour du Nord à Saint-Jérôme. Il est bon ce café-là. Ouais, c'est ça, la boîte était endommagée, mais à l'intérieur, tout était correct. Là. Fait qu'ils ont mis comme un 20% de rabais. Fait que j'en ai profité avec un 20%. Là, je me suis dit que ça serait un bon temps pour l'acheter. Fait que je suis bien content. Je vais faire une couple de recettes puis je vais t'en donner des nouvelles. Premier sujet de la journée. Ben de la journée de la Josette 53. Je vais essayer ici, je me suis mis un petit papier. Oh oui, UFC Vegas numéro 9 qui avait lieu samedi passé. La finale, c'était Alistair Overeem contre Augusto Sakai. Ce fut un très bon UFC, un excellent gala. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, le UFC fait les choses comme il faut. Ils font attention aux combattants, sont très stricts au niveau des normes à ce qui a trait à la COVID. Et il faut les féliciter pour ça. Bon, je sais que les médias sportifs québécois en parlent pas du UFC ou presque pas. Bon, évidemment, on a avec Jean-Paul Chartrand Senior et Patrick Côté à RDS nous présentent les UFC Fight Night, etc. On peut avoir des commentaires en français, mais mis à part ça, c'est le néant total au niveau des médias de masse. Et c'est un peu ridicule parce que l'UFC présentement, puis depuis plusieurs années, dans mon livre à moi, est pas mal c'est un sport majeur, là, premièrement, le MMA, puis l'organisation du UFC, ben c'est la numéro un au monde. Pour moi, c'est comme la NHL, MLB, NBA, NFL, c'est la même chose. Puis ça devrait être le cas pour les médias de masse, tu comprends? Mais on dirait que les gens, ils ont encore des gros préjugés face au UFC. Que personnellement, je comprends pas, là. Les gars, c'est des machines d'entraînement. le sport est devenu très sérieux. On parle plus là de l'époque que le MMA avait lieu dans les réserves indiennes à Kawanaki, là, puis des réserves indiennes aux États-Unis, là, puis c'était à peu près n'importe quoi, puis il y avait pas de règlement, là, puis qu'un gars pouvait se battre cinq fois dans la soirée. On a déjà vu ça. Mais là, on est loin de ça. Là. Le sport est légitime, il est legit, et puis il est bien encadré. Il y a des mesures maintenant aussi pour ceux pour les stéroïdes, exact, pour les stéroïdes et toutes les drogues possibles et impossibles. Puis le sport est très bien encadré. Donc j'y vais tout de suite avec mes highlights, mes faits marquants du UFC 9 qui a lieu au centre Apex à Vegas, le centre du UFC. Je couvre pas tous les combats parce que c'est pas nécessaire, puis je m'adresse pas nécessairement à des fanatiques du UFC dans cette Josette 53. Donc, premier combat qui m'a marqué, je te dirais que c'est un combat de femmes entre Viviane Araújo puis Montana De La Rosa. Araújo, la Brésilienne, a gagné ça de façon décision unanime, elle faisait pas de doute là-dedans. Sa boxe est extraordinaire, techniquement parfaite, très solide, elle a beaucoup utilisé son jab. Par contre, m'a dire une chose de Montana De La Rosa, toute une guerrière solide, avec tous les coups qu'elle a mangés sur le nez, pis sa marboulette, pis restée debout, quand même, c'est assez extraordinaire. On va revoir Montana De La Rosa, c'est certain, malgré cette défaite, parce qu'on sait qu'au UFC ou en MMA, c'est pas comme en boxe. En boxe, j'ai l'impression des fois, t'as une défaite puis ça devient comme la fin du monde. Mais une défaite, c'est quand même bien juste une défaite. Puis avec ça vient l'expérience puis le bagage que t'as accumulé pendant ton combat. J'aime beaucoup plus la façon de penser des gens de MMA que de boxe en passant. Donc, c'était ça le premier combat que je voulais parler. Deuxième, Brian Keller contre Ray Rodriguez. Combat très rapide, une guillotine en début de combat, une soumission à 39 secondes du début du premier round de Brian Keller, un vétéran qui... Puis pourtant, c'est ça, Ray Rodriguez est en allé direct dans sa guillotine. Pourtant, tout le monde sait, c'est la planète qui suit le MMA, puis quand t'es un combattant... je te dis ça, là, je fais mon gérant d'estrade, je sais que c'est pas facile là, d'être dans le ring avec Brian Keller, là. Mais pourtant, c'est ça, c'est sa spécialité à Brian Keller, puis Rodriguez s'est en allé direct dans sa guillotine. Fait amusant dans ce combat, Brian Keller est embarqué dans le ring sous la musique de l'intro de Stone Cold Steve Austin, ancien grand champion de la WWE, évidemment. Après ça, autre combat qui m'a marqué, oh my god, hey, celui-là, là, c'est tout un numéro. Ben, tu le connais déjà, là, si tu suis la scène du UFC, là. Michel Pereira, le Brésilien, contre Zelim Imadaev, OK? Qui est un gars, si on parle de boxe, pure boxe, il est absolument extraordinaire dans ce qu'il fait. Ce combat-là s'est terminé à 4-39 du troisième round. C'est un combat de trois rounds par une soumission, une guillotine. Mais ça donne pas l'allure du combat. Pereira a complètement dominé. Puis je dis ça gentiment, là, Pereira, c'est un clown d'un ring. Là. Il fait plein d'affaires, des roulades. Il se garoche sa cage. Il se donne un élan pour aller sur la cage après, pour voler sur son adversaire. Il fait des choses complètement folles. Moi, je pense, si tu veux mon avis, il est vraiment spectaculaire, Pereira, là. Il en donne beaucoup à la foule. D'ailleurs, il y a le Fight of the Night, là. À cette soirée-là, excuse-moi. Mais Pereira en fait beaucoup trop, là. S'il veut monter dans l'échelle et devenir champion, Pereira va falloir qu'il se calme les nerfs un peu, là. Vraiment. Il veut donner un show, c'est clair. Je comprends ça, c'est un showman. Mais il perd beaucoup d'énergie. Puis là, un moment donné, pendant le combat, au lieu de lui donner des jabs, de lui donner des crochets, des uppercuts, il s'est mis à frapper son adversaire, Imadaev, avec une main pleine. Il donnait des claques. Il a slappé d'en face Imadaev à plusieurs reprises. Ce qui est assez particulier. Mais quoi qu'on en dise de Pereira, parle-en en bien, excuse-moi, parle-en en mal, mais il va toujours finir par faire parler de lui. Moi, c'est un gars que j'aime, il est vraiment cocky, mais en même temps, t'es dans un ring, tu te bats, oh, excuse-moi, je viens de... Attends-moi 2 secondes, je reviens. J'avais caché mon Josette numéro 53 on air. Fait que je voulais que les gens le voient. Donc, Pereira, combattant, c'est spécial. Après ça, on va rapper ça assez vite là quand même. Ça fait un bout que je parle de UFC. Demi-finale, Alvin Saint-Preux contre Alonzo Manfield. Manfield qui a la shape d'un bodybuilder. Ça se passe dans Milo. C'est le retour de Alvin Saint-Preux dans Milo. Il a fait une run chez l'eau. Malgré sa grandeur, sa grosseur, je pense que ça y va mieux chez Milo. Alonzo Manfield a donné des très bons coups, des bons crochets, des uppercuts même. Il a ébranlé Alvin Saint-Preux. Mais Saint-Preux, quand ça a été le temps, il a ouvert la machine. Ça a pris un coup. Quand Manfield s'est ouvert, il tentait le crochet. Il était complètement ouvert. Il laissait son menton complètement libre. Donc, Saint-Preux... excuse-moi, je regardais les nouvelles. Saint-Preux l'a pogné drette sur le piton, comme on dit, sur la mâchoire. KO total. Un très beau KO. Le KO de la soirée. Donc, victoire de vin Saint-Preux. Et puis par la suite, on a eu la finale. Wow, finale. Souvent, les finales sont pas dignes de ce nom. Puis surtout des finales de poids lourd. Tu sais, je suis pas un fan de la division des poids lourds. Je l'ai jamais été. Tu sais, c'est pas ça qui m'impressionne moi. Mais là, Alistair Overeem, qui est un vétéran, qui est une légende évidemment, qui se battait contre Augusto Sakai, qui est tough avec ses coups de genoux là, vraiment. Quel combat! Finalement, ben Overeem a gagné ça, 5e round à 26 secondes par KO avec des coups là, portés au sol, du ground and pound comme on dit. Sakai saignait de partout, c'était incroyable. Quelle victoire d'Alistair Overeem qui l'a dit lui-même dernièrement dans un documentaire qu'il restait pas beaucoup de combats puis qu'il essayait une dernière run pour aller chercher le championnat du UFC. Moi, je suis de tout cœur avec lui. Il nous a donné des très bons combos au UFC, au Pride, au K1. Donc, c'est vraiment un bon vieux combattant qui se bat depuis une vingtaine d'années. Donc, bravo à Alistair Overeem. C'était mon wrap-up du UFC. Du UFC. Ah ouais, je voulais te parler de ça. Il y avait des nouveautés sur Netflix bien intéressantes. Puis va checker ça. Je te parle souvent de Chef Table, ce documentaire sur les grands cuisiniers à travers le monde, là, des étoiles Michelin. Mais je t'avais pas parlé de... Puis je t'ai parlé de Chef Table France aussi. Il y a eu un spécial. Là, ils en ont sorti un, je pense, que de 4 ou 5 épisodes. De Chef Table Barbecue. Je suis en train de terminer le premier épisode. Je t'en parle pas tout de suite. C'est sur une madame qui s'appelle Tutsi. C'est un personnage en soi. Ça se passe au Texas. À date, j'aime beaucoup le feel. C'est vraiment comme Chef Table, le classique du Chef Table. Mais va voir ça. C'est du trip barbecue. Tu vas aimer ça assurément, là, même si j'ai pas regardé toute la série. Je voulais juste te dire que c'était maintenant disponible sur Netflix. Et puis aussi sur Netflix, sûrement que tu as vu ça. Série de 2 saisons, de 10 épisodes chaque environ. Ça s'appelle Cobra Kai. C'est un retour sur Karate Kid 30 ans plus tard. Je suis en train de regarder la série aussi. Je vais t'en parler éventuellement, mais le fil de la série des années 80 est vraiment nice. J'aime beaucoup ça, puis c'est un bon flash de faire revenir ces gars-là. Vraiment, là, j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Donc, c'était pas mal ça, mes suggestions qu'il y a sur Netflix. Après ça, je regarde sur ma feuille, là, je t'ai dit, ouais, je t'ai dit Vegas, je t'ai parlé de ma mijoteuse. Oh, ouais, l'autre que je vais te parler, gars, je m'en vais le chercher ici. Ouais, tu sais, je t'ai parlé une couple de fois du podcast de G du Temple, excuse-moi, Discute. Hey, là, dernièrement, là, il y a 58 épisodes, puis sais-tu quoi, je me suis désabonné à... J'ai du temps, je t'explique pourquoi. C'est-à-dire, je me suis désabonné à son podcast. Là, les 2 derniers épisodes, il reçoit France Baudouin, de Radio-Canada, puis il reçoit Jean-Luc Mongrain. Moi, cette tendance-là de faire venir des gens de la télévision, purement de la télévision, en podcast, là, on dirait que les le format télévisuel, les gens de la télévision se sont rendus compte que ça pouvait être... qu'il y avait du monde qui écoutait des podcasts, fait que là, ils décident d'aller faire des entrevues podcast. Mais moi, une entrevue avec puis je me permets de critiquer parce que je l'ai écouté, l'entrevue, OK? Avant de critiquer, je me suis dit, je vais l'écouter. France Beaudoin, rien contre la madame, mais aucun intérêt de parler de son émission sur un podcast de 2 heures. De France Beaudoin, là, pour ceux qui veulent savoir c'est qui, là, vous avez juste à synthoniser les postes dits réguliers, classiques, les Radio-Can, les TVA de ce monde, les Nouveaux.ca, VTL, bon, etc., Télé-Québec. France Beaudoin, on l'a vu partout, on l'a entendu partout, on connaît son histoire, on l'a vu dans les magazines, le genre de personne qui passe à sucré-salé, puis ce genre d'émission-là. J'ai rien contre ça, personnellement, c'est correct, il y a un public pour ça. Mais je pense que j'ai du temple, là, dans son podcast, il s'en va complètement dans le champ, tant qu'à moi, là. Vraiment, là, ça fait vraiment trop, people. Moi, le podcast, pour moi, faut qu'il demeure indépendant. Pour moi, le podcast, faut qu'il demeure... faut pas qu'il soit mainstream. Pas si tu comprends ce que... Faut pas qu'il devienne populiste, là. Non, pas en tout. C'est sûr qu'on veut que les gens viennent écouter nos podcasts, là. Mais je me vois pas de faire des critiques de deux filles le matin, puis des kiwis des hommes, puis toutes ces émissions-là, Occupation double. Non. Ça, gardons ça à la télé. Moi, je trouve tellement que la télé, c'est un vieux médium. Puis là, tu vas nous foutre une entrevue avec France Beaudoin. Ça s'adresse à qui, ça, cette entrevue-là? Ceci étant dit, je te le dis encore, j'ai rien contre elle. J'aime beaucoup J'ai du temps. J'aimais beaucoup son podcast. Mais où est-ce qu'il s'en va? C'est vraiment ennuyant. Puis après ça, Jean-Luc Mongrain. Y a-tu d'autres choses à dire, lui? Ça fait combien d'années que son micro est ouvert, puis... Jean-Luc Mongrain? Moi, je veux pas faire pas faire du potin, là. Mais ben, Jean-Luc Mongrain, on m'a toujours dit que cet homme-là était désagréable, comme ça avait pas de bon sens, là. Qu'il était imbu de lui-même. Hey! Tabarnouche! Non, vraiment découragé, moi, t'as le dire, là, du podcast de J. Du Temple, là. Je veux dire, non. Je pense m'arrêter là parce que c'est pas très positif. Bref, j'ai beaucoup aimé à l'époque le podcast de J'ai du Temple, mais là, next step, invite Ginette Renault, invite Pierre Marcotte, invite Roel Denis, là, next step, là, t'es rendu là, big, là. Donc, je comprends pas à qui ça s'adresse, ça. C'est pas le public cible de son podcast. Peut-être qu'il veut élargir son public. Ouais, mais à un moment donné, tu sais, quand tu veux élargir ton public, quand tu veux devenir trop mainstream, hein, tu ramasses tout, là. Puis, c'est-tu vraiment ça que tu veux, tu sais? Ça, pour moi, je veux faire du podcast sans compromis. Ben, lui, c'est clair que c'est plus ça, là. Il est rendu ailleurs. Puis, le podcast, faut que ça soit libre. C'est un médium libre. Puis, faut que ça le reste. Et puis, j'ai bien peur pour le monde du podcast, moi, t'as le dire. Quand je regarde la signature de Joe Rogan avec Spotify, déjà Spotify a banni plusieurs épisodes de Joe Rogan, notamment ceux avec Joey Diaz, puis Duncan Russell. Moi, ça me fait chier, ça. Tu sais, déjà, il y a de la censure, là. Puis le podcast, c'était pas ça. Puis tu vois que le podcast rentre dans un autre air, là. Puis... pas sûr que c'est une bonne affaire. En tout cas, moi, je vais continuer à en faire, c'est clair, parce que c'est un loisir, puis j'aime ça, tu sais, c'est pas avec ça que je gagne ma vie, mais je le fais parce que j'aime ça, puis ça donne du matériel à mes Patreons, puis ça donne du matériel sur mon barbudeville.com, mais je le fais parce que j'aime ça vous parler au micro, tu sais, puis j'aime ça vous faire découvrir ce que moi j'ai découvert, tu sais, c'est en gros, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que c'est un peu une critique du podcast en même temps quand je parle de J'ai du Temple aujourd'hui. Très déçu. France Beaudoin, c'est en direct de l'univers, là. C'est un show de ma tante, ça. À mon avis. Je sais que Jay a bien aimé ça aller là, pis c'est correct, là. Mais, non. Moi, j'écoute mes podcasts en faisant du jogging, j'écoute mes podcasts en relaxant. Vous pouvez pas le goût d'entendre parler de France Baudouin. Mais elle m'a dit, comme le gars, si je suis pas content, elle m'a fait d'autres choses, ben c'est ça que je fais. Fait que c'est la dernière fois que je parle du podcast de J'ai du Temple. Ben, ceci étant dit, il fait une bonne job. C'est un bon yarb, c'est clair, c'est une bonne personne. C'est juste que je suis pas d'accord avec son changement de direction au niveau de son podcast. OK, on a parlé de la mijoteuse, on a parlé du UFC Vegas, on a parlé de J'ai du Temple. Maintenant, j'ai à Barbu Nation, j'ai quelques... Oh! Hey, c'est-tu quoi? J'avais mis des fun facts dans mon... tabarnouche. J'avais installé ça là. Je suppose que ça s'est en allé. C'est-tu celle-là? T'as une minute. Je pense que oui. Ah oui, je l'ai. Ah bon. Fun fact sur la restauration. Ça me poussait à la bouffe. Ça me tentait d'en faire un petit peu, gang. Hey, la nation... Oh! Ça, c'est poche. T'as une minute. Bon. Hey, la nation barbu. Savais-tu que... La pizza la plus chère au monde a coûté 12 000 piastres. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Ça se mange-tu de l'or? 12 000 piastres. Savais-tu... Ça, c'est inquiétant, la nation barbu, comme... Ça, c'est inquiétant comme fun fact. Savais-tu, la nation barbu, que dans un burger de fast-food, il peut y avoir jusqu'à 100 sortes de bœuf différents? Ça vient de 100 bœufs différents mélangés ensemble. Ça fait pas très, très santé, m'a dire. moi, ça me fait réfléchir. Ah oui, la nation barbue, je pense que j'en ai déjà parlé, mais je te leur dis pareil. Parce que je suis pas sûr. Tu savais-tu que le ketchup était utilisé à des fins médicinales à l'époque, au début du siècle? Je sais pas à quoi que ça pouvait bien servir. Attendez, je vais regarder s'il m'en reste un nom. Oh, les crackers. Les crackers qu'on mange parfois, comme des biscuits soda. Savais-tu, la nation barbu, que c'est pire que du sucre pour tes dents? Ça, c'est assez surprenant. Fait que, arrête de manger tes biscuits soda. Si ça veut dire, la nation barbu. Bon, OK, c'était tout pour les fun facts. Je suis un peu off aujourd'hui, hein, tu trouves pas? Mais on continue. Il me restait un dernier sujet, c'était notre saison de baseball qui vient de se terminer, celle avec celle de ma fille, évidemment, Mathilde, avec les Rebelles des Laurentides. Les Rebelles des Laurentides, c'est qui? Ben, c'est un club qui contient seulement des filles au baseball. Les meilleures filles de la région se retrouvent dans ce club. Cette année, on était dans le Piwiwa contre les garçons, seulement contre des garçons. On a fini, je calcule, avec une pas pire fiche, même si c'est déficitaire, de 6-9. On a fait les quarts de finale des séries. On a gagné deux matchs, un 6-4 contre les Jets 1, puis l'autre 14-13 contre les Jets 2 de Mirabel, toujours. Puis par la suite, bon, on a perdu en quart de finale dans un match très serré, 9-7 contre les Auréoles de Saint-Jérôme, qui sont d'ailleurs en finale aujourd'hui. Donc, perdre contre une équipe qui est en finale, c'est pas gênant. Ça fut une très belle saison. Tant avec les parents qu'avec le coach, puis tous les gens impliqués. On a beaucoup. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ma saison. Tu sais, quand t'es un parent d'un joueur de hockey ou de joueuse de baseball, les parents avec qui tu vas tomber, c'est toujours un guess. Mais je te dirais que cette année, je suis pas mal tombé en amour avec les parents de notre équipe de baseball, c'est tout du bon monde. Là. T'sais, je peux pas dire qu'il y en a un ou une qui... T'sais, il y a souvent un parent qui finit par nous taper ses nerfs. Là. Moi, cette année, c'était pas le cas. Là. J'ai vraiment aimé tout le monde. C'est une belle gang, c'est du bon monde. Vraiment impliqué, toujours là, à toutes les games, ou presque. Franchement, là, ce fut une belle saison à ce niveau-là. Chose que j'ai trouvé plus difficile, c'est le voyagement, parce qu'on n'était pas dans notre ville, on n'était pas à Saint-Jérôme, tu sais, on était habitué des fois de voyager, mais on avait beaucoup de matchs à domicile, tu sais, on allait jouer à Schultz, à Sainte-Paul, à Melançon, à Kingsmen, à Saint-Georges. Bon, ça, c'est tous des terrains de balle dans mon coin. Là, quand t'as pas de domicile, c'est très difficile. Puis je pense que ça joue aussi dans la saison des filles, ça. Je pense que c'est difficile de pas avoir une place concrète qui est à nous, tu sais. On a joué à Sainte-Anne-des-Plaines, on a joué à Blainville, on a joué à Saint-Eustache, on a joué à Beaubriand, on a joué à Rosemère. On s'est déplacé, tu sais. Tu sais, à un moment donné, Sainte-Anne-des-Plaines, c'était notre domicile, mais c'est ça. Mais ça, c'est pas de la faute de Kevin, c'est pas de la faute des rebelles, c'est comme ça, on s'appelle les rebelles des Laurentides. Il y a eu beaucoup de pratiques aussi. Donc, la saison est terminée. C'est sûr qu'on aurait aimé ça se rendre plus loin. Il nous reste un tournoi dans 2 semaines à Mascouche, je crois. Ça va être bien le fun. Mais on est bien heureux, bien content. C'est une belle saison pour Mathilde. Je sais que Mathilde, elle a adoré ça d'être avec les filles des rebelles. C'était une première pour elle. Elle jouait toujours avec les gars avant. Elle a bien apprécié ça. Là, elle recommence une nouvelle saison de balle avec les Sims au niveau du baseball scolaire. Elle va jouer tout l'hiver au turf à Blainville. Donc, la vie continue pour elle. Excusez. C'était triste la fin. C'était un beau discours de Kevin à la fin. On avait tout le cœur gros. Mais on a vécu une sapré de belle année extraordinaire. Une année à se rappeler. To remember, c'est clair. L'année prochaine, ben Mathilde s'en va au Bantam. Il y a plusieurs joueuses de l'équipe qui s'en vont au Bantam. Probablement qu'on va pouvoir se refaire un club l'année prochaine dans le Bantam. Les autres clubs ont eu beaucoup de misère dans les autres catégories des rebelles. Mais nous, ce qui est particulier, on a des filles. On est chanceux cette année parce qu'on a des filles vraiment... attends une minute. On a des filles d'un autre niveau cette année, là, nous. Là. C'est particulier, là. Puis si on réussit à amener toutes ces filles-là, ou presque avec nous dans le Bantam, je pense que on va pouvoir performer dans le Bantam. Mais ce qui devient très dur aussi, par contre, faut le dire, parce que les garçons rendus Bantam, ça grandit, ça grossit, puis c'est là qu'on voit qu'il y a une différence majeure avec les filles. Avant ça, on le voit pas tant que ça, tu sais. Puis oui, Moustique, Atom, on le voit pas même, tu sais. Puis oui, on commence à le voir. T'sais, les gars grandissent, grossissent. Mais Bantam, là, c'est sûr que c'est un autre game. C'était mon opinion sur notre saison de balle. Je remercie tout le monde. C'était vraiment cool. Ça a été une saison particulière. Vraiment, là, merci particulièrement au coach en chef, Kevin Cavana, qui, Mathilde, elle l'aime tellement, qui a fait une grosse job. Fait que merci à tout le monde, merci aux parents, puis j'espère qu'on va se revoir l'année prochaine. Sur ça, moi, dire comme dans le temps, quand je faisais du CB à chute, puis que mon surnom, c'était Red Lobster, Popout, ciao! C'est simple. Si tu veux éviter les épiceries présentement, ben Chef Maison, c'est la solution. Au 438-872-9500, tu peux le rejoindre aussi sur sa page Facebook, Info Chef Maison. Puis oublie pas, le forfait familial, 5 jours à 75$. Chef Maison, la solution.